beaucoup, madame, à la fois pour la qualité de votre exposé et surtout peut-être, je crois que notre public aura apprécié donc, la qualité des illustrations que vous, donc, qui ont accompagné votre propos. C'était remarquable. Merci beaucoup. Pour enchaîner, donc, je donne la parole donc, au prochain invité qui est... Pardon. Qui est M. Jean-Claude Bouchet, donc des amis de Montmélian, de Cruet. Pardon.
Non, je suis le président des amis de Montmélian et membre de l'association MyParticipation.
Entre deux points, donc.
La nature et le patrimoine. Oui, je suis président de l'association des amis de Montmélian et des environs et membre de l'association Cruet, nature et patrimoine.
Voilà. Ok, merci. Donc on va vous donner la parole donc, pour nous parler donc, du pont des Anglais. Entre deux points de connexion, donc, il y a souvent des exploits techniques, et c'est le cas du pont des Anglais qui vous tient particulièrement à cœur et sur lequel donc, vous souhaitez que le patrimoine d'une manière générale puisse porter donc, un regard bienveillant. Merci à vous la parole. Donc,
merci. Écoutez, ce que je voudrais dire d'abord, après l'exposé qu'on vient d'avoir, il reste peu de choses à ajouter. Cela dit, je vais quand même me concentrer non pas sur les 75 ou 80 kilomètres de l'itinéraire du Victor Emmanuel, je vais rester sur les 168 mètres de ce parcours qui sont le pont des Anglais. Voilà. Ce sera beaucoup plus facile pour moi et ça permettra de rester dans le temps qu'on m'a donné. Hein. Alors, la ligne historique du chemin de fer Victor Emmanuel, sans répéter ce qui vient d'être dit, traverse la Savoie, donc de la gare de Chouby, le petit village près d'Aix-les-Bains, pour rejoindre Modane et unir l'Italie à la Savoie, donc à la France. Il se trouve sur ce circuit qu'il y a au niveau de l'Isère, ce pont Victor Emmanuel qui a été construit entre 1853 et 1856, comme on vient de vous le présenter. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce pont, contrairement à beaucoup de ponts ferroviaires de cette époque, et il nous est parvenu dans son jus d'origine, c'est-à-dire qu'il a été parfaitement conservé, curieusement, miraculeusement. Et pourquoi? Parce que la ligne ferroviaire, après avoir fonctionné pendant 18 ans, en 1877, elle est abandonnée pour cette traversée de l'Isère à cet endroit-là, car il faut savoir que ce chantier du chemin de fer Victor Emmanuel est contemporain de l'endiguement de l'Isère. Et c'est pour cela que le pont s'appuie sur les deux digues toutes neuves de l'Isère qui viennent d'être construites, mais l'endiguement n'est pas complet à cette époque, pas extrêmement fiable. Et il se trouve que des crues, se sont produites quelques temps après et la digue a été emportée et ce qui a emporté aussi le ballast. Donc ça a fait réfléchir aux ingénieurs sur le tracé qu'il fallait modifier. Donc 18 ans après, on abandonne ce tracé, on fait traverser la voie ferrée un peu plus loin, plus près de la gare de Saint-Pierre-d'Albigny, pour d'autres raisons aussi, mais qui n'est pas dans mon propos de les exposer maintenant. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, on a ce pont qui nous est parvenu parce qu'il a été transformé en chemin agricole pour les paysans, pour passer d'une rive à l'autre, et il n'avait plus son utilisation pour le chemin de fer. Donc toutes les transformations techniques qui sont intervenues sur les ponts de cette époque ne l'ont pas été pour ce pont des Anglais. Du coup, on a un pont qui est resté dans son jus d'origine et qui est tellement original, c'est que il est construit en fer putelé. Ce fer, qui est une fabrication, une conception anglaise, au départ aussi. Et Ferblay, les éléments sont assemblés par rivetage à chaud. Cette technique a été utilisée 30 ans plus tard pour la Tour Eiffel. Donc c'est un pont qui est un pionnier dans le domaine, même s'il y en a eu d'autres, mais c'est un des seuls qui nous reste, un des rares qui nous reste, comme le disait Maurice Messier. En France, c'est sûr. En Europe, c'est pratiquement certain, et peut-être dans le monde. Donc il mérite quand même nos attentions. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'en 1994, il a été classé dans l'inventaire complémentaire des monuments historiques. Voilà. Je vais essayer d'aller vite. Alors, donc en 1994, l'ensemble des élus de la rive droite et de la rive gauche de l'Isère, avec les associations locales d'histoire, se sont donc unis pour aboutir à ce classement à l'inventaire des monuments historiques. Malheureusement, comme il arrive souvent pour ce genre d'édifice, des projets de démolition sont apparus. Déjà en 1914, on voulait dynamiter pour tester la dynamite. C'était le génie qui voulait faire ça. Bon. C'est pas trop le génie, mais on peut, voilà. Oui, on peut peut-être changer de diapositive. On va passer à celle-ci. Donc, voilà. Quand je parlais des technologies qui sont utilisées, mon ami Roger Decker, qui est peut-être dans la salle et qui est le président de l'association Creuset Nature et Patrimoine, avait fait un tableau pour situer dans la chronologie des technologies employées ce pont Victor Emmanuel. Et vous avez. Vous avez l'échelle du temps sur la gauche. Vous avez donc en face de 1856 le pont Victor Emmanuel qui est un pont en treillis. Voilà. Et vous avez en 1709, c'est la première coulée de fond, donc une coque qui a commencé à se faire. Il y a toute une évolution sur ces technologies de construction. 1853, c'est l'arrivée de l'acier. Donc ça va révolutionner aussi la construction métallique. Mais. Le pont Victor Emmanuel restera en fer du blé jusqu'au pont, jusqu'à la tour Eiffel, pour une raison assez simple, c'est les ingénieurs d'Eiffel avaient l'habitude de connaissaient bien le fer du blé et ont préféré utiliser du fer du blé donc ils avaient à disposition l'acier à l'époque. Donc il se situe à 1856-1860, la passerelle Eiffel de Bordeaux que vous connaissez, viaduc de Garabit, et puis la tour Eiffel 1889. Voilà. Donc pour situer, vous connaissez sans doute, mais voilà une image intéressante qui situe bien ce pont Victor-Emmanuel au niveau de Creuset qui est situé entre Montmélian et Saint-Pierre-d'Avigny. Alors vous remarquez sur l'image dans la partie centrale que le train fait une courbe pour attaquer le pont et une autre pour en sortir. Mais pourquoi ces courbes et pourquoi cette inclinaison? Vous remarquez que tous les autres ponts ils sont perpendiculaires au lit de la rivière. Pour des raisons d'économie, parce que les ponts sont moins longs. Nous, le nôtre, il fait 168 mètres de long. Et pourquoi? Parce qu'il fallait respecter, tout à l'heure, vous avez parlé des rayons de courbure. À l'époque, il fallait un rayon de courbure suffisant, parce que l'Isère diguée est située entre la montagne et la Savoyarde. Et donc, il n'y a pas tellement de passages. Donc, ils ont été obligés de faire un rayon de courbure suffisant pour les trains. Et le pont, il a une originalité encore, c'est qu'il est incliné à 50 degrés, ce qui est bon, original, intéressant. Et 50 degrés, ça lui donne, quand on est dessus, ça fait une impression bizarre, parce qu'on n'est pas habitué à voir des ponts qui sont inclinés de cette façon-là, et c'est très intéressant quand on se promène sur le pont. Voilà, donc je vais passer un peu de loin. Le voici, ce pont, donc pris sur l'Isère, avec la montagne d'Arcusa derrière. Saint-Jean-de-Maurienne, c'est derrière, à l'arrière. Voilà. Alors, je vais vous présenter quelques images de ce pont maintenant, parce que il est beau et il mérite toute notre attention. Alors pour revenir sur mon sujet, je vais. Oula, j'ai plus beaucoup de temps. l'intérêt de ce pont, donc, moi, je ne vais pas beaucoup vous parler d'histoire maintenant, mais je vais vous parler du présent. Parce qu'en réalité, que peut-on faire d'un tel patrimoine qui nous est parvenu, j'allais dire presque intact, même s'il y a de très très gros travaux à faire pour le valoriser. Donc, les associations locales, avec donc les deux associations dont je fais partie, mais aussi l'Académie de Savoie et bien d'autres, soutiennent qu'il ne faut pas le démolir, mais il faut voir comment on peut le valoriser et le conserver, et pour les générations futures. Et c'est la démarche que l'on emploie. Et pour la conservation, il faut que le pont soit utilisé. Le problème, c'est qu'il a été abandonné et qu'il n'était plus utilisé. Il est sous la responsabilité du service des routes, qui ont d'autres soucis que de s'occuper d'un pont qui ne sert pas vraiment, puisque les Anglais, quand ils vont faire du ski dans les stations, ils ne passent pas sur ce pont, ils passent à côté à 130 à l'heure. Et bon, comme il n'est pas connu, on ne pense pas s'interdire. Pourtant, nous sommes en contact avec la société qui l'a construit, l'association qui recherche et qui valorise tous les ponts et toutes les structures, c'est l'association Thomas Brassey Society, qui est en Angleterre, et qui s'intéresse aussi à ce patrimoine et qui nous a écrit. On a des échanges avec cette association pour pouvoir voir ce que l'on peut faire. Et on a d'ailleurs demandé, et ça peut être intéressant, qu'ils recherchent dans les archives de la société Brassey s'il n'existerait pas des documents et de leur recueil sur cette construction. Donc ça, ces recherches sont en cours. Voilà. Tout ça pour dire eh bien, que pour sauver un édifice, il faut qu'il soit vivant. Donc nous avons mis en place quelques idées, hein, qu'on a appelées un peu les rêves de valorisation. Donc voici notamment d'utiliser la rive gauche de la digue, qui est quand même aussi, qui devrait être aussi un monument historique, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire pour la Savoie. C'est un des plus gros chantiers qui a été fait. Je dépasse mon temps, donc je vais aller très vite. Je vous fais voir quelques images d'ailleurs de ce qu'on pourrait faire, des panneaux indicateurs qu'on pourrait mettre et sur le pont et sur la digue entre le pont des Anglais et le pont Puenou. C'est ce qu'on a fait ce week-end avec les associations d'histoire. Voilà. Donc voici ce qu'on peut faire, la garde Choudi sur le pont, les grands personnages qui ont été cités tout à l'heure qui pourraient être représentés sur le pont puisqu'ils sont, font partie intégrale du... voici aussi ceux qui l'ont construit, Thomas Brassey qui est son portrait à gauche, les usines et les techniques mises en œuvre, des panneaux comme ceci qui pourraient être intéressants. Voici ensuite, à partir de documents de Cré Naturel Patrimoine, les plans du pont qui pourraient être présentés au public. Les locomotives, c'est tous les panneaux qu'on pourrait mettre le long du pont, etc., sans passer sur les sujets de mes collègues, pour arriver jusqu'au pont Cueno, à Montmélian. Vous avez ici le chemin de fer Victor-Emmanuel, il passe en haut de l'image, et le pont Cueno, il est là, construit en 1885. C'est donc le chemin routier qui permet d'accéder à... Voici, hein, vous l'avez là. Et vous avez la route qui menait à Saint-Jean-de-Maurienne, elle même traversé Montmélian, traversé le pont Cueno, et les carrosses allaient jusqu'à Saint-Jean-de-Maurienne. Voici, alors tout le long, il y a des vestiges romains, donc ils pourraient être mis en valeur, voilà, les fraises de Cruet, etc. Je passe vite, le dimanche d'Isère, on pourrait mettre des panneaux pour expliquer ce que c'est le dimanche d'Isère. Et puis, promenade à cheval, en carrosse, à pied, et le pont Cueno. Voilà, j'ai terminé.
Merci beaucoup, monsieur.